Radio Okapi.
Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Chers auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service réparation en faveur des victimes de violences sexuelles en Ouganda. À quoi servira le premier paiement des dommages par l'Ouganda? Voilà, on en parle tout à l'heure avec nos deux invités. Nous avons dans ce studio Maître Justin Bayiru et Mutabunga, coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Bonjour Maître Justin Bayiru.
Bonjour.
Nous avons également en ligne Maître Claudine Tongo, coordonnatrice de la dynamique Femmes Juristes de Goma. Maître Claudine Tongo, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ce sujet sur la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles en RDC. À quoi va servir le premier paiement de dommages par l'Ouganda? Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ces sujets. C'est les 0-81-890-63-94 ou les 0-9-706-63-94. Juste installé toujours bel et bien là à la mise en onde de Tati Mapouk, à la réalisation et coordination au micro. C'est Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
En réparation des préjudices causés par ses troupes armées en RDC, l'Ouganda a effectué un premier versement de 65 millions de dollars américains à l'État congolais le 1er septembre dernier en exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice au mois de février dernier. Ce premier versement vise la réparation des préjudices causés entre 1998 et 2003 sur le sol congolais par le militaire de l'armée ougandaise. Avec nos deux invités, on va chercher à savoir à quoi va servir cet argent. Je rappelle, numéro de contact, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 0-81-890-63-94 ou les 0-99-706-63-94. Alors d'abord, cette première question à Maître Justin Bayiru qui est avec moi dans ce studio. Si vous pouvez un peu nous... revenir sur le contexte qui a amené à ce que ces premiers versements soient finalement effectués.
Alors, oui, c'est après la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice. Il a été demandé aux deux États de se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur ce qui devait être l'enveloppe convenue. Malheureusement, à ce point, on n'a pas eu de point de convergence dans un premier temps. Ce qui fait que la Cour internationale de justice était obligée de revenir sur l'affaire en nommant, bien entendu, des experts qui devaient suivre la question de très près. Ils avaient travaillé à distance à l'époque, mais il était nécessaire qu'à l'audience relative aux différentes conclusions, les experts de la RDC, mais aussi de l'Ouganda, se déplacent. On a vu des délégations gouvernementales qui sont venues de Kampala et de Kinshasa en même temps. Et la conclusion a été au finish, selon le dernier arrêt qui a été rendu, que la RDC recevait 325 millions de dollars américains pour la réparation des victimes de la fameuse guerre des 6 jours en 2000 à Kisangani entre les armées rwandaises et les armées ougandaises. Pour rappel, jusque-là, il y a que l'Ouganda qui a été condamné, dont la responsabilité a été prouvée jusque-là, et le Rwanda n'a pas fait l'objet de condamnation pour faute de juridiction en termes de compétences.
Ah, voilà, sur les 325 millions de dollars dont vous avez parlé, il y a cette première tranche ou ces premiers paiements, 65 millions de dollars. Alors, vous vous intéressez, vous êtes coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Comité Sectoriel. À quoi va servir cet argent?
Alors, oui, nous sommes dans un processus avec un programme qu'on appelle Just Future. Just Future, nous faisons du plaidoyer sur la question de...
Quel programme?
Just Future, justice... futur juste, si on peut le dire.
Ah, d'accord.
Oui, nous travaillons avec des partenaires comme Cordaid, mais aussi notre collègue qui est à Goma, Claudine, avec son organisation Dynamique des femmes juristes et les autres partenaires. Et nous nous intéressons à la question de la justice transitionnelle. Justice transitionnelle, c'est dans toutes ses dimensions, je veux dire, dans tous ses piliers. Mais principalement parce qu'on parle du pilier réparation, dans les cas d'espèce, à quoi devraient servir ces premiers versement de 65 millions. Je parle de vrai parce qu'au fini, c'est pas nous qui décidons. Nous pensons que ça devait répondre à deux niveaux. Au niveau de réparation d'abord individuelle, mais aussi au niveau de réparation collective. Parce que, on dénombre à Kisangani, selon les rapports mapping des Nations Unies, on parle de, les rapports parlent de entre 244 et 760 civils tués. Il revient sur au moins 1000 blessés. Et plusieurs milliers de déplacés à l'époque. Les rapports parlent de plus de 400 résidences privées endommagées. Il revient sur des biens publics, comme les biens commerciaux, comme les kilts, les églises.
On parle d'ailleurs. Et vous pensez que ce rapport doit servir de la base de données pour la réparation, mais parce que vous faites allusion à ces rapports, vous pensez que c'est à partir de ces rapports qu'on doit voir comment faire la réparation individuelle et collective?
C'est un des éléments aujourd'hui, des outils d'ailleurs, les outils majeurs, parce que c'est quand même un rapport des Nations Unies qui a été réalisé par des experts, et à mon avis on devrait s'y inspirer davantage. Il parle aussi des écoles détruites, des hôpitaux, mais aussi d'autres biens publics. Mais il y a un rapport du groupe Lotis. Le groupe Lotis, c'est une organisation de la société civile qui est basée à Kisangani, qui parle de plus de 6600 obis qui auraient été tirés sur la ville de Kisangani. Et au-delà de ça, les rapports...
Les rapports également documentés.
De la société civile. Ça revient sur... Il parle aussi de plus de 3000 blessés. À majorité de civils. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut que ces fonds soient orientés directement vers les réparations individuelles. Et lorsqu'on parle des réparations individuelles, on voit du côté des victimes qui sont encore en vie, parce qu'il y en a qui sont décédés dans l'entretemps. Mais même s'il y en a qui sont décédés, il existe ce qu'on appelle les ayants droit survivants, qui peut être des membres de famille de ces victimes qui sont décédées, ou des membres de famille, évidemment, ou d'autres membres de cette société-là qui ont été victimes. Mais à côté, il y a les réparations collectives, parce que, comme on l'a vu, c'est toute la ville de Kisangani qui a été endeuillée, c'est l'église catholique qui a été touchée, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des routes, évidemment, pour lesquelles il faut réfléchir aujourd'hui, et je pense que le moment est arrivé pour que le processus soit suffisamment enclenché et mis sur les rails.
Maître Justin Bayouré, je reviens à vous, le temps de nous tourner vers Maître Claudine Tongo, qui lui est en ligne, elle est coordonnatrice de la Dynamique Femmes Juristes de Goma en ligne, et plutôt la femme de Goma, voilà, elle est en ligne. Alors, vous avez suivi Maître Justin Bayouré, il a évoqué qui, d'après lui, en tout cas, c'est cette première tranche ou ce premier paiement devrait servir à des réparations individuelles et collectives. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Claudine Tongo?
Oui, merci beaucoup. Bien sûr, s'il y a déjà une première tranche qui est destinée à la réparation, pour moi, c'est vraiment un fait à louer. Et en termes de réparation, ce qui doit être fait, c'est d'abord de consulter, selon moi, de consulter les victimes et ensemble mettre en place un plan qui réponde sur leurs besoins spécifiques. parce que ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent décider de l'affectation de ce fonds-là, parce que selon moi, ce fonds doit vraiment aider à ce que les victimes soient réparées. Et on ne doit pas généraliser parce qu'on doit tenir compte des différentes catégories. Bien sûr, il y aura des réparations collectives et des réparations individuelles, mais j'aimerais quand même que les victimes s'expriment et qu'elles soient impliquées dans tout le processus pour décider à quoi doit servir ce fonds-là. Comme je l'ai dit, tout en spécifiant le besoin spécifique, en tenant compte du genre, en tenant compte également de personnes vivant avec handicap, en tenant compte des enfants et de tout le reste. Oui.
Alors, Maître, vous êtes coordonnatrice de la dynamique femmes juristes de Goma. Est-ce que personnellement, vous, de manière directe ou indirecte, vous êtes en contact avec le victime?
Bon, nous sommes en contact avec les victimes, surtout dans les zones où nous intervenons,
oui.
Parce que la dynamique des femmes juristes couvre tous les territoires de la... Bien sûr, nous sommes maintenant en train de nous élargir vers Ituri. Nous avons juste commencé par un petit bureau avec un point focal, mais nos interventions sont plus focalisées sur la province du Nord-Kivu. Et nous sommes vraiment en contact avec les victimes au quotidien, particulièrement les victimes de crimes graves, comme Maître Justin l'a souligné, dans le cas du projet Just Future que nous exécutons avec Cordes. Nous avons un accent particulier mis sur les victimes de crimes graves et l'objectif vraiment c'est de les amener également à se restructurer pour demander la réparation. Et dans cette demande-là, le fonds d'indemnisation des victimes est également parmi le point d'action. Et donc, comme je parle en sachant que les victimes sont au centre de ces débats, j'aimerais vraiment qu'elles soient consultées de manière volontaire, bien sûr,
oui.
Mais de manière également à s'exprimer, à donner un consentement éclairé pour décider de l'affectation de ce fonds. Que ce soit une réparation individuelle, que ce soit une réparation collective, elles doivent s'exprimer.
Alors, merci à Maître Claudine, je vous garde toujours en ligne. Alors, Maître Justin, la même question, est-ce que vous aussi, vous êtes coordonnateur de l'ONG SOS Formation Juridique Multisectorielle, et d'une façon directe ou indirecte, vous êtes aussi en contact avec les victimes?
Oui, on est en contact avec les victimes. Nous sommes bien entendu en contact avec les victimes parce que le travail que nous faisons au quotidien, c'est celui-là d'aider les victimes à se restructurer, se mettre ensemble, pour faire en sorte que leur voix puisse être porteuse. Vous savez, plus on est ensemble, plus on travaille en synergie, plus on travaille sous forme d'une association de victimes, plus on a la capacité de s'organiser, plus on a la capacité d'identifier et de récolter les besoins nécessaires par rapport à ces réparations-là, et plus on a la capacité aussi de revendiquer et d'obtenir réparation. C'est ce que nous faisons au quotidien. Mais parce qu'on parle spécifiquement de Kisangani, il y a une crainte aujourd'hui si le travail n'est pas structuré au niveau gouvernemental. Vous êtes certainement au courant de la procédure qu'on appelle aujourd'hui le processus Fonds en rêve. C'est un processus qui voudrait qu'on mette en place un fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et là, il y a un très grand soutien de la très distinguée première dame qui accompagne les processus, qui les parraine. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, entre autres, qu'aujourd'hui, on sente qu'il y a une évolution du côté du pilier réparation dans tous les mécanismes des autres piliers de la justice transitionnelle. Et au niveau national, récemment, le gouvernement a voté un projet de loi. Un projet de loi qui porte principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce projet de loi sera soumis, c'est sûr, à l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'il sera voté au cours de la session de septembre en cours. Ça sera l'élément déclencheur. Mais en contrepartie ou en retour, il y a un projet de décret aussi qui est sur la table qui va fixer en principe les modalités de mise en œuvre ou de fonctionnement de ces fonds en rêve. Alors, pourquoi je parle de la coordination du travail au niveau national? C'est parce qu'on sent que, ce que moi j'ai suivi comme communication au niveau du gouvernement, c'est que les fonds qui ont été versés par l'Ouganda se trouvent au niveau du ministère de la Justice. De l'entente, le processus FONAREV est en cours et selon l'ordonnance qui a réparti les attributions entre les membres du gouvernement, en principe, toutes les questions qui sont liées à la justice transitionnelle sont de la compétence du ministère des Droits Humains. Donc, de ce côté-là, on voudrait avoir une très bonne coordination pour que les consultations qui ont été évoquées par notre confrère Claudine puissent avoir lieu de façon coordonnée. Pourquoi coordonner? Parce qu'il faut qu'on tienne compte des besoins au niveau local.
Justement, c'est juste quand je vous parlais des besoins. Est-ce que ces victimes sont organisées au niveau des collectifs avec des avocats qui défendent leur cause? Comment ça se passe concrètement? Parce que vous cherchez assez que réparation puisse vraiment profiter aux victimes. Alors, comment c'est organisé à leur niveau? Comment sont-ils organisés?
Alors, il y a des endroits où vous arrivez où il y a eu des massacres, oui, par rapport aux 617 incidents majeurs de violation des droits de l'homme, droit international humanité, renseignés dans les rapports MAPIC des Nations Unies. Il y a des endroits où vous arrivez, vous vous rendez compte que les victimes se sont structurées, sont organisées en termes d'associations. Aujourd'hui, on parle aussi du mouvement national des survivants, survivantes, des violences sexuelles, qui sont liées aussi aux crimes, parce qu'il y a des endroits où les viols ont été utilisés comme armes de guerre. Il y a des endroits où si vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien en termes d'organisation parce que les victimes n'ont pas eu l'occasion de se structurer. Il y a des endroits aussi où il existe déjà des structures comme SOSIGM, comme le groupe Lotis, on l'a dit pour Kisangani, oui, comme la DFJ au Nord Kivu, et je sais qu'il y en a d'autres, je cite ces organisations à titre indicatif, mais ce sont des organisations qui aident les victimes à constituer aujourd'hui même leur cahier des charges en termes de besoins au niveau local. Et je peux vous rassurer que partout, oui, il y a des avocats qui sont prêts, des avocats et des avocates d'ailleurs qui sont prêts à accompagner ces victimes jusqu'au bout.
Voilà, on va ouvrir le standard parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Maître Gaston qui nous appelle de Kinshasa et Charles qui a Lubumbashi. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien. Capi Service, nous parlons de la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles en RDC. À quoi servira le premier paiement des dommages par l'Ouganda? Vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, composez les 081-890-6394 ou les 099-716-6394.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de Capi Service.
Alors, Maître Justin Bayroué, avant d'accorder la parole à nos deux auditeurs qui sont en ligne, mais il y a une précision importante. Il ne s'agira pas seulement d'une réparation en faveur des victimes de violences sexuelles pendant cette période, mais c'est à tous les crimes. Hein.
C'est à tous les crimes. D'ailleurs, lorsque vous parcourez évidemment les projets de décret, qui n'est pas encore adopté jusque-là, comme je l'ai dit, on essaie de lister de manière provisoire la catégorie des bénéficiaires. On parle des survivants des violences sexuelles liées au conflit. On parle des blessés des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. On parle des enfants, ici, des violences sexuelles. Ça c'est un élément très, très important aussi. Ici, des violences sexuelles, mais surtout du viol utilisé comme arme de guerre. On parle des personnes de troisième âge, victimes de tous ces crimes-là. Et on parle des proches des victimes et leur communauté touchée par les conflits armés. Donc, il ne s'agit pas seulement des victimes de violences sexuelles.
Voilà, c'est bien clair. Maître Gaston, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour. Maître Gaston, vous êtes en ligne depuis Kinshasa?
Oui, je suis en ligne. Vous m'écoutez?
On vous écoute 5 sur 5. Allez-y.
Ouais. J'allais d'abord dire que vous l'idée de créer un tribunal mixte international pour les crimes commis avant l'apparition de la Cour pénale internationale est très important pour notre pays, parce que les faits que nous faisons allusion ont été commis avant la mort de Mouzé, où on a vu les Rwandais et les Ougandais se battre sur notre territoire. Et il y a eu aussi des actions qui ont été posées à l'époque ou quelques ans après, voulant condamner, voulant se remettre, voulant faire que l'Ouganda puisse être condamné, mais non les Rwandais, parce que les Rwandais n'ont pas reconnu la compétence de la Cour pénale internationale ni de la CIJ. Alors, l'Ouganda a été condamné par rapport à notre État. Il y a les dédommagements qui devraient être alloués à notre État. Ce n'est pas particulier, parce que c'est l'État qui est victime devant la CIJ. Et je pense que la réparation a été faite et cet argent rentre automatiquement dans la caisse des trésors publics. Ce n'est pas à donner aux individus victimes de ces faits-là, à mon avis, que notre État avait la responsabilité de, comme c'est pas possible d'envoyer devant la Cour pénale internationale, et d'ailleurs pour votre information, et c'est un fait qui ont apparu après l'avènement de la Cour pénale internationale envoyé par notre État, comme le cas de Germain Moudjolo, Germain Katanga, mais qui n'ont pas abouti à la réparation des victimes qui se sont identifiées et représentées là-bas. Mais pour les cas d'espèce, ça n'a rien à voir avec ces aspects-là. Mais la Cour mixte intéressant devrait être créé dans notre pays pour réprimer tout ce monde-là.
Mais Maître Gaston, mais par rapport maintenant à ce premier paiement, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, par rapport à ce premier paiement de 65 millions pour trois réparations des victimes, vous avez suivi hein, nos deux intervenants, nos deux avocats, ils ont même cité la catégorie hein, des personnes concernées par cette réparation. Comment, d'après vous, cela doit se passer?
Oui, c'est que peut-être je l'ai dit sommairement, mais je vais dire que si réellement des dommages il y en a,
oui,
et qu'on a versé une somme là au profit de l'État congolais victime, l'État congolais ne doit pas distribuer cet argent aux victimes qui ne sont pas identifiées par la Cour, qui devraient bénéficier. Oui, au niveau de la CIJ, ce n'est pas question des victimes en termes individuels. Les
oui.
victimes en termes individuels, c'est au niveau de la Cour pénale internationale avec les crimes commis en 2002, je pense, juillet. Mais les crimes qui ont été commis avant, il faut que chaque État puisse se prendre en charge. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut créer une Cour mixte internationale, comme beaucoup l'ont évoqué d'ailleurs, afin de juger sur le plan national ici tout ce monde-là, identifier les victimes de ces faits-là qui seront vrais et puis s'il y a réparation et que ces victimes-là puissent en profiter. Mais dans les cas d'espèce, si l'argent y en a, c'est pour l'État congolais et victimes. Et vous savez, l'État congolais, c'est tout le monde. Ce ne sont pas que les victimes des atrocités qui ont fait la lésion, mais c'est l'État congolais, c'est tous les bénéficiaires. Que cet argent-là soit alloué à des projets, projets nationaux, hein, où on peut. Ça rentre dans la caisse de l'État et puis le gouvernement puisse allouer. Et non, nous prétendre dire que... Et puis, j'avais aussi l'intention de soutenir la caisse, si on peut appeler ça un fonds pour dédommager les victimes des faits des gens qui n'ont pas les moyens d'indemniser les victimes. Ce fonds-là doit être créé pour tous les faits criminels nationaux, caisse sociale internationale. Et si l'argent doit être versé dans ce fonds-là, on puisse se répertorier quels sont les faits des victimes des faits qui sont aussi pauvres, comme on dit, ceux qui n'ont pas les moyens.
Voilà. Voilà, merci à Maître Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. On va aller à Lubumbashi. Charles, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi.
Bonjour Marcel, bonjour aussi aux invités.
On vous écoute, Charles.
Oui, pour moi, je voulais un peu savoir, est-ce qu'il y a des parallélismes ou bien une certaine corrélation entre ces genres d'infractions ainsi que ce que nous appelons souvent les crimes de génocide, parce qu'il s'agit là d'une masse là de gens qui sont victimes. Est-ce qu'il y a des corrélations avec les crimes là de génocide? Et puis de deux, est-ce que à de telles infractions là, de tels dégâts là, est-ce que la seule peine c'est rien que les DI, les dommages et intérêts. Ou bien, il faut quand même purger aussi une certaine peine là, physique. Et puis, comme nous connaissons déjà, ce n'est pas un secret, M. Marcel, la RDC, sur l'échiquier international, sa voix, en tout cas, ne fait pas peur à quelqu'un. Est-ce que c'est net ce moment-là, comme ça perdure au moment où la population s'attend à une certaine réparation, est-ce que on ne fait pas quand même songer à des dignes fils du coin qui ont des cœurs à l'ouvrage? Là, je citerai par exemple Denis Mukwege et j'en passe. Est-ce que, comme la RDC, peut-être ça ne lui fait pas mal, elle est indirectement touchée, nos autorités ne sont pas directement touchées. Est-ce que on ne peut pas quand même avoir des dignes fils du coin qui pourraient quand même se substituer en partie civile afin que la justice soit faite? Voilà un peu ce que nous avons voulu demander.
Merci Charles d'avoir appelé depuis le Lubumbashi, Maître Justin Bayoué.
Alors oui, je commence. Je pense que je vais commencer par la préoccupation de Maître Gaston qui intervient à partir de Kinshasa. Il est revenu sur un des piliers importants de la justice transitionnelle, à savoir la nécessité d'avoir un volet pénal. Parce qu'en principe, chez nous, la logique est un peu renversée. Ailleurs, on commence toujours par les volets pénals. Pour mémoire, on parle de quatre grands piliers principaux par rapport à la justice transitionnelle. Le premier pilier concerne la réforme des services de sécurité et de justice. Et à côté, on peut parler même de l'obtention de la non-répétition des crimes. On parle aussi de l'action pénale ou le volet pénal. C'est au niveau du volet pénal que Gaston est intervenu lorsqu'il fait allusion à la nécessité d'un tribunal pénal international pour la RDC ou des chambres mixtes spécialisées. C'est un débat aujourd'hui, c'est vrai que c'est le combat du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix. Charles l'a rappelé à partir de Lubumbashi. Lui a déjà proposé au niveau national une stratégie nationale de justice transitionnelle qui serait en principe holistique et qui pourrait inclure en troisième lieu la question des réparations. Et lorsqu'on parle des réparations, on a évoqué l'aspect individuel mais aussi collectif. Et enfin, la question de la commission Vérité et Réconciliation. Parce qu'au niveau de la commission Vérité et Réconciliation, il y a des victimes qui n'ont pas besoin d'argent matériel. Il y a des victimes qui ont juste besoin que quelqu'un demande pardon et s'engage à ne plus répéter les crimes qu'il a perpétrés dans les pays. Alors aujourd'hui, au niveau de la RDC, nous sentons que les côtés pénals ne bougent pas trop, ce qui permettrait d'évoquer les cas des crimes de génocide. Parce que pourquoi nous sommes tués? Est-ce que nous sommes tués comme ça? Tout simplement parce que nous sommes des Congolais. Si cet élément est prouvé, que nous sommes visés tout simplement parce que nous sommes des Congolais, eh bien, on peut évoquer la question des crimes de génocide. On pourrait évoquer, pourquoi pas, l'aspect des crimes contre l'humanité, ou alors la question des crimes d'agression. Tout ça, on peut mettre ça sur la table, mais il faut qu'on obtienne d'abord l'aspect pénal. Et s'il faut qu'on obtienne ce tribunal pénal international pour la RDC, nous avons l'obligation de passer directement par le Conseil de sécurité, en les demandant de manière formelle. Et en ce que je sache aujourd'hui, jusque-là, la RDC n'a pas déposé une demande formelle au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour solliciter la création du tribunal pénal international dans notre pays, ou du côté national, si on voudrait à ce qu'on passe par les chambres mixtes spécialisées. C'est vrai qu'on peut les demander, parce que là, ça signifie que nous aurons des magistrats qui viennent de la communauté internationale, mais aussi on aurait des magistrats internes qui pourraient composer avec les magistrats internationaux. Et là, on serait en face des chambres mixtes spécialisées pour juger ces crimes. Ce qui donnerait par la suite lieu à des dommages et intérêts. Comme vous le savez, la Cour internationale a déjà condamné Ntaganda, Bosco Ntaganda, et elle est en train de statuer si la question mène à des dommages qui doivent revenir aux victimes en termes de réparation. Ça, c'est un autre aspect spécifique, parce que là, on serait en face d'une juridiction pénale. Ce qui n'est pas le cas de la Cour internationale de justice, qui n'a pas de victimes individus qui se constituent partie civile devant elle. devant elle, mais plutôt l'État lui-même qui agit contre un autre État. Mais on suppose qu'à ce moment-là, lorsque l'État agit contre un autre État, représente directement ou indirectement les intérêts de ses concitoyens qui ont été victimes directes sur son propre territoire. C'est le cas de la RDC contre l'Ouganda.
Avant d'accorder la parole à Malonga qui nous appelle de Kinshasa qui est en ligne, comment réagissez-vous à Maître Claudine aux préoccupations de Maître Gaston et Charles?
Oui, merci. Je pense que Maître Justin a déjà balayé vraiment toute la question. Bien sûr, je lis également à travers ces différentes questions la soif de justice qui demeure dans le cœur de Congolais sur base de tout ce que le Congo, particulièrement l'Est, a subi en termes de violations graves de droits humains, vraiment de crimes internationaux qui ont été commis. Et cette soif de justice mérite quand même l'attention, Maître Justin l'a souligné. Bien sûr, au niveau de la Cour pénale, internationale, il y a des actions déjà qui ont pris, de l'évolution avec le cas Bosco Ntaganda où il y a eu déjà condamnation. Mais bien sûr, il y a également tout un lourd passé. Si j'ai fait allusion au rapport Mapping en termes de soif de justice. Et ça mérite bien sûr une attention particulière pour que justice soit faite, parce que ce sont des crimes imprescriptibles. Les victimes également doivent avoir réparation. Tous les dommages causés doivent avoir réparation. Tous les auteurs doivent répondre de leurs actes. Et donc c'est un besoin également qui nécessite attention. Je pense que les oreilles attentives écoutent pour vider cette soif de justice au niveau de la RDC. Mais l'essentiel a été dit par Maître Justin et je ne vais plus répéter tout ce qu'il vient de dire.
Voilà, on vous garde toujours en ligne. Maître, on va accorder la parole à deux autres auditeurs. Malonga qui nous appelle de Kinshasa, héritier qui est à Bounia. Malonga, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, à nos invités là-bas.
On vous écoute Malonga.
Ok, merci. Je félicite d'abord l'État congolais de toutes les démarches qu'il a fait pour que le verdict soit tombé. Et c'est que l'Ouganda fait d'abord un signe de connaître que oui, il va faire quelque chose aussi que les Congolais auront vraiment de la joie et puis de la reconnaissance, puisque et balayer cette haine, balayer cette pleure que les Ougandais et les Rwandais ont commis, ont creusé dans le cœur des Congolais en se battant dans notre sol, dans la ville de Kisangani, en tout cas ce n'est pas moindre chose. Mais félicitations à notre État. La question c'est aussi, en tout cas Marcel, bon, ce que l'Ouganda a donné et ce qu'il va continuer à faire comme le véridique de ce jugement-là, quel sera le bénéfice général de tous les Congolais? Puisque c'est nous tous qui avons subi cela, et particulièrement Kisangani. Est-ce que Kisangani aura une grande partie pour la reconstruction de cette ville, puisque nous avions vu, et d'ailleurs, il y avait ceux qui étaient là, que moi j'ai causé avec eux, que c'était vraiment grave. Est-ce que la réparation sera directe aux Congolais de Kisangani, ou bien les Congolais auront d'autres façons de récupérer ce qui seront versés dans le trésor public d'une manière ou d'une autre, ou bien de quelle manière que chaque Congolais sentira que vraiment, que oui, nous sommes récompensés de tout ce que nous avions subi, des mal que nos voisins ont commis dans notre sol. C'est ça la préoccupation, Marcel, vraiment. En tout cas, je félicite l'État congolais et qu'il soit surtout cela. Qu'il n'oublie pas que nous, ici, à Kwilu, il y a aussi une autre tentative, s'il vous plaît. Hein? Des étrangers aussi qui veulent sauter de l'Est à l'Ouest. Vraiment, ça, c'est un cas grave.
Merci Malonga d'avoir appelé à De Kinshasa. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour, Héritier. Et Héritier, essayez de dynamiser hein, votre voix. On a de la peine à vous suivre là. Mais héritier, essayez de vous déplacer parce que là, en tout cas, moi, j'arrive pas à vous suivre, hein, donc j'ai du mal à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Essayez de vous déplacer encore un peu, le temps pour nos invités de réagir par rapport d'abord à cette réaction de Malonga qui a appelé de Kinshasa. Maître Claudine, comment réagissez-vous?
Oui, merci Monsieur Malonga pour cette question. Bien sûr, qu'est-ce que les Congolais vont gagner dans ça? Je voudrais juste revenir sur le principe des réparations d'abord de manière générale. Pour que une victime puisse bénéficier d'une réparation, il y a des conditions à remplir. Par exemple, une victime peut être une personne physique ou morale, mais il faut que l'identité de la victime soit établie, ou son enregistrement ou établissement s'il s'agit d'une personne morale. Il faut que la victime ait subi ou souffert un préjudice. Il faut que il y ait également un lien direct de causalité entre le crime et le préjudice subi. Et donc, dans le cas précis, nous sommes déjà en face des victimes qui ont rempli ces conditions pour bénéficier de dommages et intérêts. Et donc, le fonds en question va aider à réparer les victimes identifiées et connues déjà qui ont eu cette reconnaissance tout au long de la procédure et qui ont été désignées comme bénéficiaires de fonds en question. Donc, de manière directe ou indirecte, les personnes seront réparées. Et l'État congolais en soi également, donc plutôt tous les Congolais, de manière générale, ne seront pas reconnus comme victimes dans le cas précis. Donc, il faut quand même faire la part des choses, même si sur le plan moral, je ne le nie pas, il y aura quand même une certaine satisfaction au niveau de tous les Congolais de voir ces crimes être réparés.
Alors, Maître Claudine, votre collègue, Maître Justin qui est avec moi dans ces studios, il avait dit qu'il y a en tout cas des endroits où en tout cas les victimes ont pu se constituer soit en collectif, soit en tout cas ont créé des structures pour la défense de leurs droits, mais il y a des endroits où c'est pas le cas. Et dans un endroit où c'est pas le cas, comment pensez-vous qu'on peut organiser les choses? Ah, Maître Claudine n'est plus en ligne, on va la retrouver tout à l'heure. Alors, Maître Justin, et dans des endroits où, en tout cas, il n'y a pas une certaine organisation, comment les choses peuvent se passer?
Alors, il y a un programme qui est développé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, oui, le BCNDH, avec le ministère national des droits humains. Et ils ont commencé des consultations. Ils ont commencé des consultations dans des provinces pour essayer de voir des endroits où il n'y a pas eu beaucoup de dynamique, en tout cas comme pour le cas de Kisangani, Tchopo actuel ou du Nord Kivu, du Sud Kivu. Je pense que le projet qui est développé par le BCNDH et puis en partenariat avec le ministère des droits humains va apporter des solutions, va permettre à ce que les victimes se regroupent tout de suite, se structurent. Mais il y a des endroits aussi comme Kananga, je crois que là on est au Kasaï central, où j'ai vu qu'il y a un travail qui est fait avec la Fondation Panzi à travers le programme GSF, Global Survival Fund, qui est en train d'aider les victimes, par exemple, des Moulombodi, les victimes des Moulombodi qui ont subi les conséquences de la fameuse affaire Kamwenansapu, à se mettre ensemble et à se constituer pour que demain, après demain, s'il y a des réparations en termes de fonds qui arrivent comme ça, qu'on sache déjà qui sont les véritables victimes et comment on peut les structurer pour que l'aide puisse leur parvenir.
On va contenter avec la ligne de Héritier qui nous appelait de Bounia. Héritier, vous êtes toujours là? Bon, allez-y toujours, on va essayer vraiment de tendre l'oreille parce que là, sincèrement, moi, en tout cas avec dans mes écouteurs, j'ai du mal à vous suivre avec mes casques là. Mais allez-y, on vous écoute.
Dans la réparation, sans avoir à gâcher la cause qui est
Décidément, c'est vraiment inaudible. On a du mal à vous comprendre, héritier. Désolé, si vous pouvez peut-être changer de téléphone et puis nous rappeler un peu plus tard. Et bienvenue si à vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons de la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et d'autres crimes en RDC. À quoi servira le premier paiement des dommages par l'Ouganda sur 325 millions de dollars à verser à l'État congolais? Il y a déjà un premier versement de 65 millions de dollars. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, composez les 0-81-890-63-94 ou 0-9-7-1-6-63-94.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Madame Claudia nous appelle de Kolwezi. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Marcel. Bonjour aux invités.
Bonjour madame.
Monsieur Marcel, vous avez posé la question de savoir à quoi servira ce premier paiement.
Oui, exactement.
Oui, en fait, je pense que il n'y a que le gouvernement qui est mieux placé pour répondre à cette question. Autre chose, je remercie d'abord les deux invités pour tout ce qu'ils ont fait à faire au travail. Mais bon, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas tout ce qu'ils ont donné comme programme. Ils travaillent avec le gouvernement ou c'est comment? Comment ça s'est fait? Parce que tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'il y a eu comme, au fait, notre pays a subi durant tout ça, il y a de cela plusieurs années. Au fait, nous, les Congolais, on se connaît comment nous gérons les fonds. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, que ces fonds ne puissent pas aller dans les poches des gens? Il faut qu'il y ait quand même un comité de suivi. Il faut qu'il y ait une suivi pour que ces fonds puissent servir, réparer réellement tout ce qu'il y a eu comme violence. Et je veux savoir si le gouvernement va réellement travailler avec les organismes de nos deux invités,
ça fait
commencer un peu
comme
ma préoccupation.
Merci, madame Claudia, d'avoir appelé depuis Kolwezi. Avant de passer la parole à notre invité qui est avec nous dans ce studio, la Rachid Omar, qui nous appelle, j'imagine, de Lubumbashi. Rachid, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
On vous écoute, Rachid.
Oh oui, par rapport au sujet qui est sur le plateau, moi je trouve que cette politique du gouvernement congolais, elle n'est pas du tout efficace, hein, vu que cet argent qui est versé par l'Ouganda, les termes de dommagement utilisés aux victimes des violences. Mais il faut comprendre que quand on dit des dommagements des Congolais, c'est sur toute l'étendue de la République. J'ai suivi là l'invité qui a donné des procédures à suivre pour identifier les victimes et puis enfin ils vont bénéficier de les dédommagements. Mais l'inquiétude que moi je vais présenter, c'est que on va s'intéresser à une région et puis cette région, ils vont bénéficier des dédommagements ou des frais de réparation, alors qu'il y a aussi des victimes qui sont déjà déplacées et des camps où les faits se sont dépassés ailleurs. Alors il y aura pas moyen que le gouvernement congolais prenne d'autres mesures, par exemple, de prendre cet argent qui est versé par l'Ouganda et soutenir, par exemple, le FARDC dans la lutte pour retrouver la paix. Là, c'est tout Congolais qui est bénéficiaire. Et non faire les systèmes là, il faut identifier, passer par des étapes. Je trouve que cette politique n'est pas du tout efficace. Il faut que le gouvernement prenne parfois des décisions responsables. Soutenir aujourd'hui, parce que si on soutient les victimes, les anciennes victimes, alors qu'aujourd'hui, la RDC persiste toujours dans l'insécurité. Il y a des victimes. Aujourd'hui, même ce matin, il y a des victimes. Alors, si on identifie les anciennes victimes, alors les victimes d'aujourd'hui et les victimes des jours à venir. trouve que cet argent devrait autrement servir le gouvernement à soutenir le FARDC dans la liste qui est donnée ou distribuée aux citoyens congolais dans les différents coins.
Merci. Là, merci Rachid Omar d'avoir appelé de Lubumbashi. Le tout dernier auditeur, c'est Safari qui nous appelle depuis Inga Barrière. Bonjour Safari. Safari, vous êtes en ligne depuis Inga Barrière. Il n'est plus en ligne. Alors, Maître Justin Bayouré, comment réagissez-vous?
Alors, je commence par Rachid. Je voulais peut-être rassurer à Rachid que c'est vrai. Il est vrai que les 65 millions sont versés dans le cadre de Kisangani. Mais le processus Fonarev qui est en cours sera national. Et il ne va pas distinguer un site ou un autre par rapport aux victimes. Il peut se rassurer que demain ou après-demain, si le processus est effectif, il a été prévu par exemple qu'au début, je ne dis pas encore que c'est validé, mais il est prévu qu'au début, dès la création, la mise en œuvre effective, l'État devrait débourser 50 000 $ comme fonds de démarrage. Il est prévu qu'on aurait des subventions, des taxes parafiscales, des dons aux élèves, des contributions des bailleurs de fonds, des sommes collectées de manière exceptionnelle. On parle même de 10% si les go passent, ce sont des propositions. On parle de 1% si les factures de consommation d'eau, d'électricité, relativement à la question hors TVA. On parle de 10% des redevances minières. Donc, c'est beaucoup de fonds qui seront collectés. C'est en termes de millions que ces fonds seront constitués pour faire en sorte que tous les Congolais qui ont été victimes dans tous les sites, au-delà même du rapport mapping, parce qu'il y a Yumbi, je pense que Yumbi, c'est après les rapports mapping ici, il y a tout ce qui est en train de se passer du côté des Teke. Et on pense que oui, ça devrait être une solution. Si on revient à la question de Claudia,
Madame Claudia,
Claudia qui a appelé à partir de Colosie. Oui, je voudrais rassurer à Claudia que nous travaillons avec le gouvernement. D'ailleurs, tout récemment ici le vendredi, le ministère des droits humains a organisé un dîner d'information sur les processus de la stratégie sectorielle en matière des droits humains dans notre pays. Et ce document, qui sera validé très récemment, prochainement par le gouvernement, contient tout un chapitre spécifique sur la justice transitionnelle. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, parce que notre pays ne dispose pas d'un document spécifique holistique en matière de justice transitionnelle. Donc nous travaillons avec le gouvernement et c'est à tous les niveaux. Au niveau provincial, je donne l'exemple du site Kivu. Il y a un processus qui voudrait à ce que l'Assemblée provinciale puisse voter un édit portant sécurisation des sites où on a pu identifier des fosses communes. Il y a une organisation au site Kivu, Justice, SOS Justice, qui travaille sur l'identification des fosses communes. Et les députés provinciaux ont accepté de s'impliquer dans les processus pour mettre en place un édit pouvant sécuriser ces sites. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des endroits où c'est spolié. On construit dessus juste pour faire perdre des traces. Mais elle a une inquiétude qui est très bien fondée. Je l'avais déjà évoquée. Tout le monde sait comment gèrent les Congolais. Je voulais lui rassurer, madame, c'est pas tous les Congolais qui gèrent mal. Il y en a encore sur lesquels on peut compter. Et de ce côté-là, nous plaidons pour que le processus Fonarev puisse être un processus coordonné et inclusif. C'est pour ça qu'au début, je vous lis à ce que c'est tous ces fonds qui sont générés, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par les bailleurs de fonds, que ce soit des fonds qui viennent dans les cas de condamnation comme dans les cas de l'affaire Ouganda ou dans l'affaire de Bosco Ntaganda prochainement, que ces fonds soient coordonnés au niveau du processus Fonarev et qu'on se rassure qu'à ce niveau-là, cette fois-ci, on va y nommer des personnes, hommes et femmes bien sûr, mais qui comprennent non seulement la question, mais qui ont les soucis de travail pour les victimes.
Voilà, on va s'arrêter par là, Maître Justin Bayiroué Moutabunga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Merci d'avoir été des nôtres pour parler en tout cas de cette réparation en faveur des victimes des crimes en RDC avec ce qui s'est passé avec les armées, avec notamment l'armée ougandaise qui est dans le pays, a déjà payé le premier paiement des dommages. On espère vous retrouver prochainement.
Merci aussi à Radio Capi de m'avoir invité.